Radio Kapi.
Les informations, patience Ngalula Mbombo. L'actualité reste dominée par l'évasion à la prison centrale de Makala. Les défenseurs des droits de l'homme déplorent des morts de trop et exigent qu'une enquête mixte et indépendante sur ce qui s'est réellement passé à la prison dans la nuit du 1er au 2 septembre soit diligentée. À suivre également dans ce journal, la coalition des armées congolaises et ougandaises ont détruit les 1er et 2 septembre derniers un bastion important de rebelles de ZDF dans les territoires des Beni, au Nord Kivu. Trois rebelles ont été tués et quelques effets de guerre récupérés lors de cette offensive. Notre invité est Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Il parle de sa détermination à améliorer la bonne gouvernance au sein des entreprises du portefeuille de l'État afin de les amener à jouer les rôles qui est les leurs dans l'économie nationale. Bonsoir à toutes et à tous. Des morts de trop à la prison centrale de Makala. C'est un cri de colère qui lance les défenseurs des droits de l'homme qui exigent une enquête mixte et réellement indépendante sur ce qui s'est passé à la prison dans la nuit du 1er au 2 septembre. Des réactions fusent de partout dans les milieux politiques et des défenseurs des droits humains pour dénoncer les tueries et viols à la suite de l'évasion, d'après eux, de plusieurs détenus de la prison centrale de Makala avec des bilans discordants. Jeff Ngoy pour les détails.
Somme toute, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme rappelle aux autorités congolaises qu'aucun motif ne saurait justifier les violations des droits humains, dont les droits intangibles, en l'occurrence le droit à la vie. Il est important que les responsabilités en soient établies, publie la VSV. Les avocats qui suivent de près les dossiers de leurs clients à Makala dénoncent des viols massifs présumés sur leurs clientes par des hommes en armes et d'autres prévenus, soutenus par certains venus de l'extérieur. Et c'est dans ce désordre que beaucoup se sont évadés, déclare Maître Saranjibou, alerté par sa cliente présumée violée. Pareille dénonciation de l'ONGDH Rescue DRC de Maître William Wenga, qui accuse le vice-ministre de la Justice de mensonges sur le nombre de deux morts, alors qu'il a été contredit après par le vice-premier ministre de l'Intérieur parlant plutôt de 129 morts. Il y a eu plus de 200 morts, 54 blessés graves. Trop c'est trop, martèle Maître William. Le MDVC, opposition républicaine d'Augustin Bissimwa, s'est dit consterné par le carnage de plus après celui de Wazalendo tué à Goma. Quelques gardiens pénitentiaires nous affirment que tout est redevenu calme et sous contrôle.
Pendant ce temps, la psychose règne toujours dans le chef de la population des environs de la prison centrale de Makala. Les écoles environnantes ne fonctionnent toujours pas et les parents ont évacué leurs enfants dans d'autres communes par mesure de prudence. Selon un témoin contacté sur place, les crépitements sporadiques des balles continuent jusqu'à maintenant. Suivez Junior Munzila, joint au téléphone par Blaise Shindani Kambala.
Ici, aux environs de la prison centrale de Makala, la situation reste très critique car il y a des coups de balles intempestifs. Bien qu'on a enlevé les barricades, la circulation est toujours timide. Les écoles environnantes ne fonctionnent toujours pas. D'ailleurs, plusieurs parents ont évacué leurs enfants à cause de la psychose qui continue à gagner du terrain. Donc la situation reste tendue. Nous ne savons pas pourquoi. Jusqu'à 16 heures, il y a toujours des crépitements de balles. Donc la situation est telle qu'elle est. On ne sait pas au juste ce qu'il y a. À propos des morts, effectivement, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu vraiment plusieurs morts car le véhicule et les ambulances, même les camions de la police qui ont évacué des morts, ont fait des tours et des tours la journée d'hier.
Et puis, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains a documenté 400 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, avec 1487 victimes. C'est une des principales tendances que publie le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour les seuls mois de juillet. Dans son communiqué publié hier lundi, le BCNUDH met en cause des groupes armés opérant dans l'est du pays, des éléments de FRDC et de la police nationale congolaise. Jeff Ngoy pour le détail.
Les tendances du PCNIDH font état de 767 hommes, 140 femmes, 80 personnes de genre et âge inconnu, 55 garçons, 40 filles et un enfant de genre inconnu, victimes des violations des droits humains. Soit une augmentation de 20% du nombre de violations et d'atteintes documentées par rapport au mois de juin 2024, au cours duquel on a compté plus de 300 cas. Les membres de groupes armés ont sans cesse attaqué les populations civiles dans les territoires de Beni, Masisi, Lubero, Mambasa et Djougou, entraînant de graves violations et atteintes aux droits de l'homme. Le nombre de victimes enregistrées a également augmenté de 24% en comparaison avec le mois de juin, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cela s'explique entre autres par l'augmentation au cours de la période sous révis des cas de violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa au cours des manifestations publiques. Le BCDH souligne des cas de viol suivis d'exécution des victimes et enlèvement.
Au Nord Kivu, la vie reprend son cours normal ce mardi à Goma. C'est après une nouvelle journée, ville morte qui a plongé hier lundi les activités économiques dans une certaine paralysie. D'autres acteurs dénoncent les violences qui ont accompagné cette manifestation en ayant exacerbé la situation des psychoses que vit déjà la cité lacustre. Une ville prise, selon eux, dans une vague d'enclavement due à l'activisme du M23 et à la hausse de la criminalité. Restons dans le Nord Kivu. La coalition des armées congolaises, FRDC et ougandaises, UPDF, annonce avoir détruit le 1er et 2 septembre 2024 un bastion des rebelles des ZDF à l'ouest des localités de Makumu et Biakato dans les territoires de Beni. Selon les porte-paroles du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord de FRDC, lors de cette offensive, 3 rebelles ont été tués. Les forces coalisées affirment également avoir récupéré 2 ordinateurs liés à l'État islamique, une grenade et une arme. Le colonel Mac Azoukai précise qu'il s'agissait d'un bastion important utilisé par les rebelles des ZDF pour lancer des attaques contre les villages à l'ouest du territoire de Beni. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Ce campement, c'est une sorte de sanctuaire de l'ennemi sur cet axe Biakato, Mamové et Mangina. Et c'est là où l'ennemi tentait d'installer de nouvelles bases arrières. C'est à partir de là qu'il menait des opérations, des incursions dans des localités environnantes. Les forces de la coalition ont retrouvé des ordinateurs. Nous pouvons dire d'emblée que c'est là où ils montaient leur communication, parce que tous les éléments trouvés dans ces ordinateurs indiquent qu'ils étaient en contact permanent avec l'État islamique et d'autres réseaux dans lesquels ils œuvrent. Il y a eu des otages libérés et en dehors de cela, le message fort que nous pouvons donner à la population. Je sais qu'elle le fait déjà, mais qu'elle continue à accompagner les militaires des FARDC et des UPDF qui sont déployés dans la zone afin que l'ADF ne puisse pas sanctuariser l'axe Mangina-Mamové.
Au chapitre des hydrocarbures, comment éviter à la République démocratique du Congo de plonger dans une crise pétrolière? Cette question a été hier lundi au cœur des échanges entre les ministres de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, et les représentants des sociétés pétrolières, mais aussi les responsables de la Direction générale des douanes et assises, DGDA. Cette réunion avait comme objectif de transmettre les instructions de la DGDA relatives au paiement de la fiscalité et par fiscalité pétrolière. Daniel Moukoko a demandé aux responsables des sociétés pétrolières de maintenir des efforts fournis jusque-là pour s'assurer que les stocks de sécurité ne soient pas touchés. Joseph Kwame, administrateur directeur général de CEP Congo, revient sur l'essentiel de cette réunion. Ses propos sont sélectionnés par Blaise Makassi.
Il s'agissait de la lettre de la DGDA, de la douane, concernant une suspension éventuelle des livraisons d'hydrocarbures dans le pays, compte tenu du fait que certaines sociétés commerciales n'auraient pas payé les droits de douane. CEP étant, je dirais, la pierre angulaire des approvisionnements des hydrocarbures, si CEP s'arrête, tout s'arrête. Alors nous avons estimé qu'il était nécessaire d'en discuter avec les autorités et son excellence le vice-premier ministre de l'économie bien clarifier les choses et les rôles de chacun. Et une solution a été trouvée. Il va avoir des discussions avec la DGDA et je pense que le problème va se régler très rapidement. Nous nous sommes donné une semaine, le temps de recevoir toutes les données de la DGDA au niveau de CEP Congo, faire le tri, en discuter avec les sociétés commerciales. Et nous pensons qu'au bout d'une semaine, les choses vont s'aplanir avec la DGDA. Il était question d'alerter les autorités pour qu'il n'y ait pas justement d'interruption des approvisionnements. Sinon, si nous ne réagissions pas, il était possible que la DGDA bloque les opérations effectivement dans toutes les provinces. Mais là, tout est réglé, ça va.
Rendons-nous dans la province du Sud Kivu où la prime des enseignants dans des écoles fait son retour en douceur à travers certaines écoles de la ville de Bukavu. La rentrée scolaire au lycée Thérésy, pour ne prendre que ces cas, a été motivée par le consentement des parents d'élèves de cette école à verser une prime afin de suppléer les salaires des enseignants jugés insignifiants. Jean Kassami a constaté l'effectivité de la reprise des cours suite à cette motivation. Suivez son reportage.
Les enseignants du lycée Thérésy se sont présentés massivement à l'école dès le premier jour de la rentrée scolaire. Outre leur conscience professionnelle habituelle, les parents ont promis de payer une prime. L'un des enseignants trouvés dans la cour intérieure de l'école avoue les motifs de sa motivation.
Les parents nous ont consultés, nous ont dit que nous, même si nous souffrons, comme tous les autres enseignants, ils vont quand même accepter de consentir encore une fois un petit sacrifice afin de nous permettre de voir comment nous pouvons rentrer. Voilà pourquoi nous avons décidé de rentrer.
Quelques parents contactés confirment leur soutien aux enseignants. L'un d'eux indique que chaque parent débourse régulièrement 85 dollars américains par trimestre et que les parents restent disposés à payer car le résultat de leur sacrifice est très encourageant. Les meilleurs lauréats de la RDC aux examens d'État session antérieure est une élève du lycée Thérésy de Bukavu avec un score de 87%. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Rentrée scolaire 2024-2025, on en parle toujours. Cette fois, Radio Okapi s'intéresse particulièrement à une catégorie d'enfants. Il s'agit de ceux souffrant de l'autisme. Selon les psychologues, l'autisme n'est pas une maladie, mais un trouble des neurodéveloppements. Malgré les stéréotypes qui existent autour de ces troubles, les enfants atteints d'autisme peuvent s'intégrer normalement dans la société et devenir autonomes. L'école Les Amis de Daniel est spécialisée dans l'encadrement de cette catégorie d'enfants. Ici, la rentrée scolaire s'est déroulée dans une ambiance récréative et organisée avec différents pédagogues. Arcel Kajourou nous en parle dans ses reportages.
Située sur l'avenue des Écuries, dans la commune de Ngaliema, l'école Les Amis de Daniel accueille des autistes de tous âges. Selon le programme, l'encadrement se fait de manière individuelle en tenant compte du degré d'autisme de chacun. Nadine Zambo est la promotrice de cet établissement. Elle explique comment se passe la rentrée dans cette école ainsi que les enseignements.
C'est même rentrée comme les autres, hein, parce que nous devons les inclure dans la société. Ils viennent le matin, ils étudient. Ceux qui peuvent, auxquels l'autisme n'est pas sévère, ils ont des cahiers, ils ont histoire, ils ont français, etc. Ceux qui ne peuvent pas, qui sont encore les non-verbaux, on commence à utiliser les pictogrammes, ce sont les dessins. Hein, ça veut dire l'éducation avec dessin.
Benjamin Chikaya, psychologue clinicien, donne quelques détails sur le trouble d'autisme.
On a plusieurs sortes de degrés d'autisme, les autismes légers. On constate qu'il y a la présence d'un conseil intellectuel moyen. Vous allez constater que l'enfant, il peut jouer avec ses amis, à un moment, il peut s'isoler. Dans l'autisme moyen, vous allez constater qu'il y a un retard intellectuel moyen. Il peut pointer quelque chose. Il va manquer un peu de concentration. À l'autisme grave maintenant, il y a un retard intellectuel profond. L'enfant est incapable à faire une activité. Il pleure, il y a des cris.
Selon Benjamin Chikaya, le trouble des enfants autistes peut être amélioré grâce à un encadrement et un suivi spécialisé.
Sport dans ce journal, les Léopards seniors de la RDC sont en regroupement à Kinshasa depuis ce lundi. 20 sur le 25 convoqués sont déjà sur place. Ils préparent le match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les 6 et 9 septembre prochains, ils joueront respectivement contre les Sili nationales de la Guinée à domicile et les Walia de l'Éthiopie en déplacement à Dar es Salaam en Tanzanie. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
D'après la direction de communication de la FECOFA, la préparation des léopards a débuté lundi avec une séance en salle pour les premiers arrivés, Enoch Inonga, Gaël Kakuta et Meshak Elia. Cette préparation va se poursuivre ce mardi 3 septembre au stade Martyr à huis clos avec 21 joueurs dont 20 déjà en regroupement, plus Samuel Moutoussami qui était attendu à la mi-journée à Kinshasa. Toujours d'après la même source, Chancel Mbemba, Théo Bongonda et Edo Kayembe rejoindront la ville de Kinshasa la nuit. Nathanael Mboukou sera le dernier à rejoindre la tanière. Avec l'arrivée de ce dernier, le sélectionneur national aura sous sa main tous les 25 convoqués qui sont Lionel Mpassi, Dimitri Bertraud, Timothy Fayoulou, Gédéon Kaloulou, Axel Toinzembe, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Rocky Bouchiri, Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Dylan Batumbisika, Charles Piquel, Samuel Moutoussami, Edo Kayembe, Ngalael Mukau, Gaël Kakuta, Elia Meshak, Théo Bongonda, Yohan Wissa, Samuel Essende, Fiston Kalala, Simon Banza, Noah Sadiki, Shadrach Akolo et Nathanael Mbou. Notons que l'équipe de Sili nationale de la Guinée sera à Kinshasa dans les prochaines heures. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale. Face à la multiplication des catastrophes naturelles sur les continents africains, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, veut accélérer la mise en œuvre de l'initiative Alerte précoce pour tous. Les inondations, sécheresses et autres catastrophes naturelles prennent de l'ampleur en Afrique. Le continent doit relever les défis du réchauffement climatique, bien qu'il dispose de peu de moyens pour anticiper et éviter les dégâts. La région est la plus impactée du monde, alors qu'elle n'est responsable que de moins de 10% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Afin d'anticiper les risques, les systèmes d'alerte précoce pourraient être la solution adéquate.
L'invité.
Les entreprises du portefeuille de l'État congolais ne sont pas des canards boiteux. Il leur manque tout simplement la bonne gouvernance afin qu'elles jouent effectivement les rôles qui est les leurs dans l'économie nationale. C'est Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille, qui l'a dit. Il tient à remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie nationale. Il a défini et fait adopter au dernier conseil de ministres les profils du mandataire public. Jean-Lucien Boussa s'entretient à ce sujet avec Daniel Tambinzoni.
Jean-Lucien Boussa, bonjour.
Bonjour.
Après le contrat mandat que vous avez conclu avec les mandataires publics, apparemment vous n'êtes pas rassasié. Vous avez défini et fait adopter au dernier conseil des ministres le profil du mandataire public. Comment comprendre cette démarche? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le ministre?
Mais d'abord, comme vous savez, nos entreprises publiques sont un maillon important de notre économie. C'est la colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo. Et le regard que nous avons eu en tant que Congolais de nos entreprises publiques a été un regard plus ou moins sceptique. Et pourtant, ces entreprises regorgent un potentiel immense. Mais pour répondre à votre question, il faut savoir pourquoi les entreprises publiques affichent des performances discutables. Pour être clair, des mauvaises performances. La réponse est donnée par des éléments simples. Parce que la bonne gouvernance n'y est pas forcément dans la plupart des entreprises. Mais pourquoi la bonne gouvernance n'y est pas, alors que les règles sont claires? Les lois aussi sont claires, il suffit simplement de les appliquer. Parce que derrière cette problématique se cachent des acteurs. Les acteurs de bonne ou de mauvaise gouvernance. Qui sont ces acteurs? Ce sont les mandataires publics. Si nos mandataires publics allient un management stratégique à un management de risque, nous sommes capables de pouvoir faire des entreprises du portefeuille ces vrais boulevards de développement économique et sociale du pays. Derrière donc ces mandataires publics se cachent des critères, un profil, mais qui sont appelés à exercer les fonctions des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des administrateurs, des présidents des conseils d'administration. Je ne dis pas que ceux qui sont là n'ont pas le profil requis, mais je dis qu'il faut normer la question. C'est pour cette raison, pour corriger ou pour régler ces problèmes, dans le futur proche, il faut donc des critères solides, objectifs, pour être porté à la tête d'une entreprise publique, d'un établissement public et d'un service public.
Le futur mandataire public devra avoir des connaissances universitaires, il devra faire preuve d'une bonne stratégie et avoir des connaissances en ce qui est de finance et de l'audit. C'est ce que vous avez défini comme critérium du futur mandataire public.
Tout à fait, ce critérium nous permet finalement de pouvoir nous retrouver sur quatre éléments. Un mandataire public doit avoir le savoir. Et le savoir, c'est défini par un niveau de formation élevé. Deuxième critère, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, son contenu se trouve être une expérience professionnelle ou une expertise aiguisée dans un domaine précis. Nous avons aussi dit que le mandataire doit être recruté parmi les personnes qui maîtrisent la filière. Je parle de la régie des eaux, de l'électricité, de la Gécamines, de l'ONATRA par exemple. Vous n'allez pas penser que celui qui n'est pas ingénieur ou qui a un profil d'ingénieur ou d'un bon économiste ou ceci puisse d'entrée de jeu porter les meilleurs résultats. Il faut le savoir faire faire. Quatrième élément, et c'est connu de tout le monde, le savoir-être. On nous a dit science en conscience n'est que ruine de l'âme.
Excellence, beaucoup d'études avaient été faites dans ce pays. Il y a eu des réformes dans les entreprises publiques, vous en rappelez, autour de 2009-2010. La plupart de ces entreprises avaient été transformées en sociétés commerciales dont jusque-là l'État congolais reste le seul actionnaire. Et ces études avaient montré que ces entreprises publiques sont des canards boiteux. Et ce sont ces canards boiteux-là dont vous héritez aujourd'hui. Votre vision que vous impulsez dans la gestion de ces entreprises.
Ma vision en 4 points, mais avec une introduction que j'ai indiquée tout à l'heure. Les entreprises publiques du portefeuille de l'État sont la colonne vertébrale de l'économie de la RDC. Ils sont dans tous les secteurs. Le secteur des transports, routiers, ferroviaires, terrestres, aériens. Le secteur minier, le secteur de la télécommunication. Le secteur financier, Cadeco, Sofidé, et tant d'autres secteurs. C'est véritablement la colonne vertébrale de l'économie. Et ces entreprises ont un potentiel de développement immense. J'ai tout à l'heure indiqué le vrai problème qui se pose à elles, c'est le problème de la qualité du management, de la qualité de la gouvernance et de la qualité de la gestion. Face à ces potentiels, si nous administrons la cure du management stratégique et du management des risques, avec des acteurs d'un profil compatible à notre ambition, nous aurons des réponses très claires. Et moi, je n'utilise pas l'expression « canard boiteux ».
Jean-Lucien Boussa, merci.
Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, s'entretenait avec Daniel Tambizoni. Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, supervisée et coordonnée respectivement par Pelekipe Lamondo et Richard Junior Kamungambo Achimankinda. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.